Bienvenue dans ce nouvel enseignement donné par le ministère El Shaddai. Cet enseignement de la parole de Dieu sans compromis vous aidera à grandir spirituellement, à porter du fruit et à prospérer à tous égards comme le veut le Seigneur. Nous en souhaitons une bonne écoute. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons partager la parole de Dieu. Et ce matin, j'ai un message sur l'obéissance. Parce qu'il est très important de comprendre les principes fondamentaux de la parole. Et vous ne pourrez pas réussir dans votre destinée si vous n'avez pas un cœur obéissant. Et que vous ne comprenez pas ce qu'est l'obéissance. Nous allons lire la première épître de Pierre au chapitre 1. Et les deux premiers versets vont nous parler de cela.
1
Pierre chapitre 1.
Verset 1
à 2, c'est surtout le verset 2 qui va m'intéresser. Vous allez découvrir que après un miracle que vous pouvez vivre, il va falloir que vous appreniez l'obéissance. Je vais vous montrer plusieurs cas dans votre vie où vous avez vécu des miracles. Et je vais vous montrer que les miracles doivent être suivis par notre obéissance. Que c'est quelque chose qui est très important dans notre vie. Si tu apprends ce principe ce matin, ça va énormément t'aider dans ta vie spirituelle. Parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont un problème avec l'obéissance. Il y a des choses qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre. Et je vois des destinées ruinées à cause de ça. Des gens qui commencent bien avec le Seigneur, mais qui ont ce problème de révélation sur l'obéissance. Donc nous allons voir que l'obéissance est une fondation indispensable pour réussir dans notre destinée. Dans le premier verset, Pierre fait des salutations. Il dit, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers, dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, dont toute la partie ouest, entre autres, et une partie de la Grèce, la partie ouest de la Turquie, qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit. Regardez bien. Afin quoi ? Qu'ils deviennent quoi ? Obéissants. Tout le monde dit obéissant.
Obéissant.
Donc afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées.
Donc,
la parole de Dieu nous parle que nous avons été élus. L'élection selon Dieu, Dieu t'a choisi pour être son enfant. Tous les hommes sont choisis par Dieu d'une manière ou d'une autre parce que Christ est mort pour tous. Mais seulement certains répondent à l'appel de Dieu, l'appel de la croix. Et il est dit selon la préscience de Dieu, le Père, d'accord, par la sanctification de l'Esprit, mais pour l'obéissance. Alors, obéir, ça veut dire recevoir des ordres. Mais aussi, c'est appliquer ces instructions, ces ordres. Comme on nous le demande. Comme on nous le demande. Non pas comme on pense qu'on devrait faire. S'il y a obéissance, bien sûr, il y a autorité et il y a des ordres. Et il y a donc l'application de ces ordres. Mais pas n'importe comment. Parce que là aussi, nous allons voir que c'est un problème chez beaucoup de chrétiens. Ils disent qu'ils obéissent au Seigneur, mais ils obéissent à leur manière. Et on verra que ça ne marche pas comme ça. Si
tu
as l'habitude de faire ça dans le naturel,
il va falloir que tu changes.
Parce que vous voyez, quand on voit des gens se comporter dans le naturel, d'une certaine façon, eh bien en fait, ça transpire dans leur vie spirituelle. Par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à obéir aux hommes, comment est-ce qu'il va dire qu'il obéit à Dieu? Quelqu'un qui dit j'aime Dieu, et que tu vois dans sa vie, il n'a pas d'amour pour les autres, il
ne
s'intéresse pas aux autres, il
ne
veut jamais aider les autres,
tu
dis, tu as un problème quelque part. Et la parole de Dieu nous dit, comment je peux aimer Dieu que je ne vois pas et ne pas aimer mon prochain que je vois?
Vous
voyez, souvent il y a des comportements que nous avons dans le naturel, ça peut être avec des personnes, par exemple quelqu'un qui est faux dans ses relations. Comment est-ce qu'il peut avoir une relation saine avec Dieu et équilibrée? Non, ça
ne
marche pas. Ça ne marche pas, et c'est pour ça que dans la vie de certaines personnes, ça ne marche pas. Si ça
ne
marche pas dans ta vie, et que tu es là ce matin, il faut que tu te poses des questions. Entre autres, par rapport à l'obéissance. La parole de Dieu nous parle d'obéissance. La parole de Dieu nous parle d'obéissance. Et souvent, l'obéissance doit être suivie du miracle. Premier exemple, votre nouvelle naissance. Regardez Romains chapitre 1. Chapitre 1, l'épître aux Romains. La nouvelle naissance est un miracle, nous le savons. Je dirais même plus que la nouvelle naissance est le plus grand des miracles. Le jour où tu as reçu Jésus comme ton sauveur personnel, tu t'es mis dans les conditions divines pour le salut. Jésus est venu habiter dans ton cœur et tu as vécu ce miracle de la nouvelle naissance. Donc Romains chapitre 1 verset 5 va nous montrer là encore par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi de tous les païens. Donc le fait de naître de nouveau va t'amener à devoir obéir à Dieu. Le jour où tu as reçu Jésus, tu es né dans le royaume de Dieu, tu deviens enfant de Dieu, et là il va falloir que tu obéisses aux règles de la maison. Tu nais dans le royaume de Dieu et il va falloir que tu apprennes à obéir à ton Seigneur dans le ciel. Mais aussi, Dieu va placer des autorités au-dessus de toi. Et comme nous le verrons aussi, l'autorité pastorale. Je vais en parler ce matin, Là, on parle en son nom à l'obéissance de la foi. Si tu dis que tu as la foi, il y a un certain nombre de choses où tu dois obéir à Dieu. Tu ne peux pas te comporter comme un rebelle si tu es dans le royaume de Dieu. Tu fais n'importe quoi. Non, ce n'est pas possible. Comme le disait Jacques, l'épître de Jacques, tu dis que tu as la foi, Montre-moi tes actions, tes œuvres. Mais c'est pas très bien traduit, comme c'est pas une bonne traduction, mais c'est tes actions. Montre-moi tes actions. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es né de nouveau, il y a des choses dans lesquelles tu dois obéir à Dieu. Parce que tu dis que tu as la foi. Tu dis que tu es né de nouveau. Donc il y a une obéissance que Dieu te demande. Vous savez, Dieu est un Dieu d'amour. Mais Dieu a des exigences. La grâce, ce n'est pas je fais ce que je veux, comme je veux, et c'est tout.
Oh,
j'entends pas beaucoup de Amen ce matin. Je suis en train de vous expliquer les fondements du royaume de Dieu. Non, la grâce t'a été donnée. Tu es né de nouveau. Mais Dieu a des exigences. Parce que dans l'amour, il y a des exigences. Souvent, les gens pensent, oh, Dieu nous aime, alors... Dieu nous aime quoi. Non, Dieu est bon, Dieu nous aime, mais Dieu a des exigences. Tout le monde dit Dieu a des exigences. Il m'aime, répétez ça, il m'aime.
Il m'aime.
Mais il a des exigences.
Mais il a des exigences.
Amen. Ça c'est important. Dieu a des exigences, c'est-à-dire qu'il exige de toi certaines choses. Et une des choses que Dieu exige de toi, entre autres, c'est l'obéissance. L'obéissance. Donc tu es né de nouveau. C'est bien, maintenant tu dois savoir qu'est-ce que Dieu attend de moi. Il t'a touché par sa grâce. Il t'a transformé. Il t'a transporté du royaume des ténèbres vers son royaume. Et maintenant, Dieu a des exigences. Et tu dois te plier à ses exigences. Et c'est normal. Et si tu veux vraiment avoir une relation avec Dieu, qui se renforce, qui grandit, eh bien, Dieu regardera ton comportement et comment tu lui obéis ou pas. L'obéissance est dans le cœur de Dieu. C'est une exigence de sa part. Il y a des choses qu'il nous demande de faire. Nous devons les faire.
Que
quelqu'un dise Amen.
Amen.
Nous devons les faire, frères et sœurs. Il n'y a pas d'alternative. Sinon, ça veut dire que je désobéis. Et si je désobéis, je ne peux pas m'attendre au meilleur de Dieu. Donc, à partir du moment où tu as vécu ce miracle de la nouvelle naissance, Dieu te dit, tu dois m'obéir. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi un miracle, nous le savons. Quelqu'un est rempli du Saint-Esprit et il y a un flot. Il y a un flot de paroles divines qui vient. Ce langage surnaturel. Mais ce don est là pour toi. Mais ce don aussi a des exigences. Et entre autres, c'est la sanctification. Tu es né de nouveau. Tu commences à obéir à Dieu. Mais crois-moi, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu commences à expérimenter sa présence. Et Dieu va avoir des exigences. Plus Dieu nous donne, plus Dieu nous demande. Je suis sûr que tu n'as jamais pensé à ça.
Mais tu as
intérêt à y penser. Parce que plus tu vivras des choses avec Dieu, plus Dieu va exiger de ta part. Vous voyez, moi je rencontre des fois des gens qui me disent, oui, le Seigneur m'appelle à faire ça, Dieu m'a visité, Dieu m'a parlé, etc. Dieu m'a montré qu'il va y avoir ça et ça dans ma vie, ça va être extraordinaire, c'est immense. Alors je leur dis, bienvenue dans les persécutions. Et dans les souffrances.
Mais oui.
C'est pour ça que Dieu a des exigences. Plus tu penses que Dieu va faire des choses immenses pour toi, plus tu devras obéir de façon inconditionnelle. Vous savez, la Bible parle de la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, souvent, c'est vu par la peur de Dieu. Ça n'a rien à voir. La vraie crainte de Dieu a deux dimensions. La première des dimensions, c'est haïr le péché. Ça, c'est une première dimension. C'est une dimension de sanctification. Mais il y a une dimension qui est beaucoup, beaucoup plus profonde que ça. Et je dirais même que quasiment très, très, très peu de chrétiens ou de serviteurs de Dieu ont atteint. C'est d'avoir la sainte crainte, la sainte révérence. De ne pas vouloir désobéir à Dieu dans les moindres petites choses. Vous savez, les gens qui ont les plus grand ministère de cette planète. Leur plus grande crainte, c'est de désobéir à Dieu sur les moindres petites choses. J'ai déjà vu Bénin faire ce genre de commentaire. On sentait qu'il avait une sainte crainte quand il exerce le ministère. De ne pas dire quelque chose que le Seigneur ne lui aurait pas dit de dire. Parce que ce matin aussi, on va parler du Seigneur, le Seigneur m'a dit. On va voir là aussi où est vraiment le Seigneur et où il n'est pas dans cette histoire. Mais je vous dis une chose. À partir du moment où tu es baptisé du Saint-Esprit, Dieu a une exigence supplémentaire sur ta sanctification. Sur ta séparation d'avec le monde et le péché. Et certains d'entre vous, vous avez reçu le Seigneur. Et je vous mets en garde, frères et sœurs. Si tu amènes quelqu'un au Seigneur, fais attention à l'exemple que tu lui montres. Parce qu'il y a des gens qui sont pollués d'avance. On n'est pas des religieux, mais nous ne sommes pas non plus des gens qui faisons n'importe quoi. Quand tu amènes quelqu'un au Seigneur, mets le standard haut dans sa vie rapidement. Moi, je me souviens, les gens qui nous ont amenés au Seigneur, directement, ils nous ont dit, le dimanche matin, tu ne fais rien d'autre que d'aller louer et adorer ton Dieu, rendre un culte à ton Dieu. Maintenant, si tu amènes quelqu'un au Seigneur et que parce que hier tu as été faire 17 mariages, que
tu
es revenu à 23h ou minuit avec des yeux comme ça
et que tu te dis,
oh, je suis fatigué, demain j'irai pas au culte.
Et que
tu viens d'avoir un petit bébé en Christ que tu es en train d'encadrer.
Bah,
mon frère, ma soeur, tu lui montres un mauvais exemple. Amen. Oh là là,
ouh
là là, là 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 là. Je le dis souvent, les chiens font pas des chats et les chats font pas des chiens. C'est une expression qu'on appelle un peu crue en français. Mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu es un chrétien enflammé pour le Seigneur, la personne que tu vas amener à Christ, tu vas lui donner un amour brûlant que tu vas lui communiquer. Et directement, il va dire, waouh. Et directement, ça devient un standard de vie pour lui. Tu lui expliques certaines choses au départ de sa vie. Tu lui dis, maintenant que tu as reçu le Seigneur, tu vas nettoyer tes relations. Maintenant que tu as reçu le Seigneur, tu ne vas plus faire ça. Maintenant que tu as reçu le Seigneur, voilà comment tu vas te comporter. Je vais te montrer le chemin. Parce que vous savez, quand vous êtes dans le compromis, que vous vivez un peu n'importe comment et vous amenez des gens au Seigneur. Ah, je me souviendrai toujours d'un frère que je connais. Il y a des années, des gens l'avaient amené au Seigneur. Et on lui avait dit,
la
personne qui l'avait amené au Seigneur lui avait dit, tu sais, tu fais comme tu le ressens, mon frère. Si
tu
as soif, bah vas-y, enivre-toi. Tu régleras plus tard ce problème. Et ce frère, à l'époque, il venait tout juste de se convertir et il avait des problèmes de boisson. Et croyez-moi, ça ne l'a pas aidé. Parce qu'évidemment, il a tout de suite rétrogradé. Rapidement, il a rétrogradé. Parce qu'il faisait comme il le ressentait. Non, avec la chair, tu ne fais pas comme tu le ressens. Avec la chair, il faut... Faites ça. Avec la chair. Avec la chair. Amen. Il n'y a pas d'autre choix. La Bible nous le dit. Donc ce que tu dois faire, c'est que tu dois encadrer des gens correctement. Mais d'abord, tu dois avoir une vie. Une vie qui remplit les exigences de Dieu. Une vie d'obéissance. Si tu montres un exemple d'obéissance. Vous savez, par exemple, les murs ont des oreilles ici, vous savez. Moi, je cherche à rien savoir, mais il y a tellement de choses qui reviennent dans mes oreilles. Vous savez, il y a des gens qui critiquent. Les murs ont des oreilles. Les murs ont des oreilles. Moi, je ne cherche jamais aucune information. Mais les murs ont des oreilles. Vous savez, je ne dis pas souvent des choses. Mais il y a beaucoup de choses que je sais. Faites attention, frères et sœurs. T'amènes quelqu'un à Jésus et il t'entend déjà critiquer le pasteur. Vous savez, moi, c'est comme ça que j'ai été formé au début de ma vie chrétienne. Je
ne
peux pas vous dire le mal que ça a créé en moi. Si on m'avait montré un réel respect envers les serviteurs de Dieu au départ, j'aurais gagné au moins 5 à 10 ans de ma vie spirituelle. Fais gaffe à ce que tu dis. Parce que tôt ou tard, ça ira contre toi. Et je vais vous montrer dans quelques instants ce que ça crée chez les gens. Mais fais attention, tu as un bébé spirituel à côté de toi.
Tu es
en train de dire des choses. Et tu es en train de former son caractère spirituel. Dieu t'a placé comme un instrument de sanctification pour lui. Et tu deviens un instrument de pollution. Fais attention à ça, mon frère, ma
sœur.
Fais très attention. Tu peux ruiner des destinées. Tu peux faire que des gens, des jeunes chrétiens, nouveaux chrétiens, se détournent du Seigneur au bout de quelques temps ou se fassent embarquer dans des trucs bizarres. Parce que directement, tu as commencé à les polluer. Alors, on va voir ce texte de Hébreux chapitre 12, verset 14. La parole de Dieu nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La sanctification, c'est le nettoyage de la vie. Et ce n'est pas une option. Couper avec le péché n'est pas une option. Trier tes relations n'est pas une option. C'est une exigence. Amen.
Amen.
Obéir à Dieu n'est pas une option. Vous pouvez acheter une voiture avec des options ou sans options. Vitre électrique ou vitre manuelle. Essuie-glace arrière ou pas l'essuie-glace arrière. Lecteur de CD MP3, MP4, MP55+, MP10-14.
MP3 n'izindi zose n'amazede n'ibindi radio.
Ou pas.
Changhe bitarimwo.
Mais avec Dieu, il n'y a pas d'option.
Amen.
Amen. Il n'y a pas d'option. Dieu a des exigences d'obéissance. Soit tu les acceptes et tu t'y plies, ou soit tu ne le fais pas. Mais si tu ne le fais pas, sache une chose, que tu es en train de mettre ta vie en danger. Les Israélites ne sont pas rentrés dans la terre promise. Et on va voir pourquoi. Regardons ensemble Hébreux, chapitre 4. On va le voir. Dieu avait le meilleur pour eux. Dieu avait le meilleur pour eux. On va lire la fin du chapitre 3, le verset 18 et 19, et on va lire certains versets du chapitre 4. Frères et sœurs, nous devons être prudents. Je veux que 2014 soit l'année de l'obéissance. L'obéissance à Dieu et aux principes du royaume de Dieu. Les Israélites avaient tout. Tout pour réussir. Les Israélites ont vécu des miracles qu'aucun peuple sur l'histoire, dans l'histoire de l'humanité, n'a vécu. Sur une période de temps très courte, ils ont vécu miracle sur miracle sur miracle sur miracle. Tous les jours, ils voyaient des miracles. Ils voyaient la colonne de nuages, donc le jour. La colonne de feu la nuit, c'était la direction divine pour eux. Dieu envoyait des cailles, des oiseaux, plouf, qui descendaient, ils avaient juste à les prendre et ils mangeaient. Ils avaient la manne. Ils avaient tout. Quand ils avaient soif, ils demandaient à Moïse. Et Dieu faisait jaillir de rochers ou de la terre de l'eau. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont vu l'armée la plus puissante du monde être écrasée sans qu'il n'ait rien à faire. Ils ont remporté des batailles, même dans le désert où ils n'avaient quasiment pas à combattre. Il fallait que Moïse lève ses mains comme ça et ils ont maintenu les mains de Moïse levées. Et ils ont remporté la bataille. Alors s'il y a bien un peuple qui a vécu des miracles, c'est bien le peuple d'Israël. Si vous lisez le début de l'Exode, mais c'est incroyable. Les nombres, c'est la même chose. Miracle sur miracle sur miracle, intervention divine sur intervention divine. Ils avaient un désert à traverser. Alors on ne sait pas, certains disent c'est 11 jours, d'autres 3 mois, d'autres 6 mois, peu importe le temps qu'ils auraient passé. Ils avaient un pays que Dieu leur donnait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui Dieu a promis un pays entier? Où coule le lait et le miel? Ça veut dire où il y a la prospérité. Aucun d'entre nous n'a eu ce genre de promesse. Et eux, ils l'ont eu. Dieu avait tout préparé d'avance. Mais la Bible nous dit clairement: et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans ce repos, sinon à ceux qui avaient quoi? Désobéi. Dieu leur demandait certaines choses dans le désert. Et ils savaient que c'était une période dure pour eux. Une période où il faisait chaud. Ils n'avaient pas de maison. Ils n'avaient pas de latrine, de toilette. Ils avaient beau... C'était pas facile, le désert. Mais c'était un passage obligé. Et mon frère, ma soeur, le désert pour toi, c'est ton passage obligé. Entre la sortie d'Égypte, qui est ce fait de sortir du monde, la traversée de la mer Rouge, qui est le symbole de ta nouvelle naissance, le désert, c'est un temps où tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. Et à lui obéir sans condition. À te sanctifier. Et pour l'instant, tu ne vois pas l'abondance, tu ne vois pas les promesses de Dieu. Et tu souffres selon Dieu. Ça veut dire que tu es dans une période où ta foi n'a pas encore œuvrer suffisamment pour te sortir de tes situations. Ta foi n'a pas encore œuvré pour t'amener dans ta destinée. Pour l'instant, tu es placé dans certains endroits où tu dois y rester et obéir. Et ta chair dit non, je veux tout, tout de suite. Il faut que tout marche comme ça. Et Dieu dit non. Tu dois d'abord apprendre l'obéissance. Parce que sache une chose, si Dieu accomplissait ta destinée comme ça du jour au lendemain, ton caractère ne tiendrait pas. Les défis de foi que tu aurais ne tiendraient pas. Tu te retrouverais par terre. Et peut-être même rétrograde. C'est pour ça qu'il y a des étapes dans nos vies, frères et sœurs. Et la parole de Dieu dit bien ici, ils n'entreront pas dans son repos. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient désobéi. Verset suivant. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Et vous savez, l'incrédulité, c'est de ne pas voir ce que Dieu a promis. C'est-à-dire, il y a une absence de foi. Quand il n'y a pas de foi, il n'y a pas de réalisation de vision divine dans nos vies. Et tu es là, et malheureusement, l'incrédulité te fait faire des choses qui sont de la désobéissance souvent. Parce que tu ne vois pas la réalisation de tes promesses. Alors tu plonges dans n'importe quelle opportunité. Et tu te fais avoir. Combien de destinées sont ruinées à cause de cela? On va regarder le chapitre 4. À partir du verset 6. 6 jusqu'au verset 11. La parole de Dieu nous prévient. Rappelez-vous que Dieu a écrit sa parole pour notre instruction. Et il y a des exemples qui sont donnés dans la parole. De gens qui ont réussi. De gens qui ont échoué. Et la parole de Dieu nous donne leurs histoires. Pour nous instruire. Pour que nous puissions dire, hey, je me souviens, dans la parole de Dieu, il est écrit ça. Un tel a fait ça et ça. Il a fait des exploits pour Dieu. Alors qu'il était rien du tout. Un autre qui avait tout a tout loupé. La parole de Dieu est écrite pour notre instruction. Et il est dit, et puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, on revoit encore ce mot. C'est-à-dire le refus d'obéir à Dieu. Et souvent l'incrédulité nous amène à ne pas obéir à Dieu. Ou alors d'obéir, on dit qu'on obéit, mais en fait on n'obéit pas, on fait comme on a envie de faire les choses. Dieu n'est pas intéressé par tes façons de faire. Il n'est pas intéressé par mes façons de faire. La vraie obéissance inconditionnelle, c'est de faire ce qu'il me dit de faire. Et de la façon dont il me dit de le faire. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu doit être notre autorité finale. Verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant à David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Verset 9. Il y a donc un repos du sabbat réservé au peuple de Dieu. 10. Car celui qui entre dans le repos de Dieu, c'est-à-dire entrer dans le pays promis, c'est ça l'idée. Hein, mais nous, c'est spirituel et c'est les promesses que nous avons. De ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes, verset 11, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance.
Ngo nuko rero ngo yongera gutoranya umunsi niwo uyo munsi vugira mu kanwa ka Dawidi igihe kirekire cyane gihise nkuko tumaze kuvuga ituye umunsi aho mwumvirijwe ryayo ntimukomanaze imitima yanyu kuko yaba Yosua yarabaruhuye ntiba yaravuze ubwanyuma ivyuwundi munsi nuko rero haracari huburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'Imana murongo wa 11 nuko tugira umweto gushika muri ubwo buruhukiro hoye kugira umuntu agwa akurikiye icitegererezo cy'ababandi cyo kutumvira Imana.
Donc la parole de Dieu nous montre que le peuple d'Israël a donné un exemple de désobéissance.
Ijambo ry'Imana twereka yuko abanyisraeli batanze akarorero ko kutumvira Imana.
Parce qu'ils étaient rebelles, ils ont désobéi à Dieu.
Kubera ko bari abagararije, baragararije Imana.
Ils avaient leur propre plan.
Bari bafise imigambi yabo imbere yabo.
Ils ont refusé de faire ce que Dieu leur a demandé, la façon dont Dieu leur demandait.
Banka umugambi w'Imana banka icimana ibereka gukora.
Dieu leur avait donné un leader, ils se sont rebellés contre ce leader.
Imana ari abahaye umurongozi baramugarariza nawe.
Et au bout d'un moment, même Moïse s'est énervé contre eux tellement il en avait marre. Moïse est un homme que j'admire. Il avait 3 millions de rebelles à diriger. Et souvent, il usait des histoires. Des histoires. Quand vous lisez le livre des Nombres, c'est des histoires et des histoires et des histoires. Même son frère et sa sœur sont venus le trahir. Imaginez-vous. Des gens sur qui vous comptez, des gens qui doivent être loyaux. La loyauté, c'est quelque chose, c'est une valeur qu'on trouve très rarement aujourd'hui. Et c'est bien dommage. Beaucoup de gens veulent être dans les églises. Beaucoup de gens vont dire, le Seigneur m'a dit. Et tout à l'heure, je vais vous montrer ce que le Seigneur va vous dire. Venons au miracle de la guérison. Même si tu vis une guérison ou un miracle de guérison, après ton miracle tu dois obéir. Dans Jean chapitre 5 il y a l'histoire de ce paralytique que Jésus va guérir. Vraiment, cet homme, c'est terrible, c'est un homme qui n'avait même pas la foi. C'est un des rares cas de guérison dans la parole de Dieu qui est guéri avec la souveraineté de Dieu. Cet homme était paralysé, nous le savons, depuis 38 ans. Il n'avait aucune foi, mais Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Ça fait partie des grands mystères de la souveraineté de Dieu. Là. Cet homme va être guéri. Il lui dit, verset 6, sachant qu'il était là déjà depuis longtemps, veux-tu recouvrer la santé? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8, Jésus lui dit directement, lève-toi, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme recouvra la santé, il prit son lit et se mit à marcher. Tu peux lire verset 7. Le verset 8 et 9. Donc cet homme va vivre un miracle. Depuis 38 ans, il est infirme. Jésus arrive. Lui donne une parole. Il y a un don de foi spécial qui se manifeste. Don de miracle. Il lui dit, lève-toi maintenant. Et le gars, sans réfléchir, il se lève. La puissance de Dieu lui tombe dessus. Il vit un miracle. Maintenant, il va avoir quelques ennuis. On
ne
va pas regarder cela, mais on va regarder le verset 14. Jésus va lui donner des ordres. Il va lui donner des ordres. Regardez bien au verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Mais Jésus va lui donner une exigence. Cet homme vient de vivre un miracle. Et il lui dit, Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire.
Ngo ntugasubire gukora icyaha kugira ngo ntuzubone ibiruta bya mbere.
Vous savez, Dieu est bon, Dieu nous bénit, Dieu fait des miracles.
Imana ni nziza kandi irakora ibitangaza.
Mais il a des exigences.
Ariko irafise ahantu tugomba.
C'est l'obéissance.
Kumvira.
Ne pense pas parce que Dieu a fait ça ou ça pour ta vie.
Ntubaze ngo kubera Imana yakoze ibi n'ibi ku buzima bwawe.
Maintenant, t'es bien.
Ubu meze neza.
Donc tu dis, oh, gloire à Dieu.
Bavuga uti Imana ishimwe.
Et d'un seul coup, tu fais n'importe quoi.
Hamga cyangwa uriko wifata
uko utari ko. Non, quand il y a miracle, il doit y avoir obéissance derrière, quelque part. T'es sauvé, tu commences à nettoyer ta vie. T'es baptisé du Saint-Esprit, tu vas beaucoup plus loin dans ta sanctification. Tu vis une guérison, un miracle, il faut que tu obéisses. Il y a des choses que le Seigneur te demandera peut-être. Fais-le. C'est la même chose dans les finances. Il y a des gens pour qui on prie, des fois qui ont des provisions surnaturelles. Ou qui d'un seul coup voient leur situation financière en très peu de temps changer. Obéis. Obéis dans les finances. Tu risques sinon de tout perdre tôt ou tard. Obéis dans ce que la parole te demande, de Dieu te dit par rapport aux finances. Si tu ne le fais pas, tu risques de te retrouver en bas après. Donc voyez, à chaque action que Dieu pose dans nos vies, Dieu a ses exigences. Dieu te dit, tu dois faire ça, tu dois faire ça.
Après.
Tu es sous la grâce, tu as reçu par grâce. Mais tu dois répondre à la grâce de Dieu. Et si tu ne le fais pas, tu risques de tomber. Tu risques de perdre, entre guillemets. Perdre des choses. Tu perdras pas ton salut, mais tu risques de montrer un mauvais exemple. Tu risques d'être un parleur en langue charnelle. Et on en a des parleurs en langue charnelle. Qui discréditent le baptême du Saint-Esprit. Et c'est bien dommage. À chaque fois que Dieu fait quelque chose dans ta vie, cherche à savoir qu'est-ce que Dieu te demande au niveau de l'obéissance, le degré supérieur d'obéissance. Ça va vraiment t'aider. Maintenant, parlons de la parole de Dieu. Donc de la voix de Dieu. Parce que là aussi, j'entends beaucoup de choses qui parfois me font sauter en l'air. Et on va parler de comment Dieu nous parle. Dans 2 Timothée 3:16, Paul donne des recommandations à Timothée. Il lui dit un certain nombre de choses. Il lui explique pourquoi l'écriture a été donnée par Dieu. La parole de Dieu nous dit ici dans 2 Timothée 3:16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice.
Ngo ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu cyo kumuhana cyo kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka.
La parole de Dieu.
Ijambo ry'Imana.
La parole écrite selon notre alliance.
Iri jambo ryanditswe n'Imana bihwanye n'isezerano
turimo. C'est la première des façons, la façon principale, grandement principale, ça se dit pas en français mais vous comprenez ce que ça veut dire.
Nibwo buryo bwa mbere nyamukuru buhari.
C'est là où Dieu va te parler principalement dans ta vie.
Dieu
te parle principalement par sa parole. Il va te donner un certain nombre de fois des paroles précises pour ta vie. Mais ce n'est pas tous les jours, toutes les 5 minutes, toutes les 30 secondes, toutes les 3 secondes. Parce que j'entends des choses parfois qui me surprennent. Dieu nous parle par son Saint-Esprit. La parole de Dieu est claire et Dieu nous montre clairement qu'on est dirigé par le Saint-Esprit. Mais la direction du Saint-Esprit ne passera jamais au-dessus de la parole écrite. Quand quelqu'un vient à toi et qu'il commence à te dire « Le Seigneur m'a dit » et que tu dis « Ah ah, le Seigneur a dit autre chose dans les Écritures. » Oui, mais le Seigneur m'a dit. Ah, le Seigneur m'a dit. C'est facile de faire parler le Seigneur. C'est facile, tu as juste besoin d'une bouche. Et de dire le Seigneur m'a dit. Et j'entends vraiment, vraiment beaucoup de stupidité. Que des gens viennent dire. Qu'ils auraient reçu dans la prière. Et qui des fois contredisent directement la parole de Dieu. L'obéissance numéro un que tu dois à Dieu, c'est sa parole. Le Seigneur ne m'a pas permis, pasteur, d'aller te voir encore. Il faut que le Seigneur te parle pour venir voir le pasteur, toi. Mais j'en entends des bêtises. Mais je vous assure, j'entends des choses comme ça. Beaucoup de choses comme ça. Le Seigneur te dit, le Seigneur me dit, le Seigneur nous dit. On va faire des chansons comme ça bientôt. Le Saint-Esprit parle, mais le Saint-Esprit n'outrepassera pas la parole de Dieu. Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est le même Saint-Esprit qui peut te parler, qui a d'abord inspiré cette parole. Et la parole de Dieu doit rester ton autorité suprême en matière de conduite avec Dieu. Aucune parole ne peut venir surpasser la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que j'entends et qu'est-ce que je vois comme destinée ruinée avec le Seigneur m'a dit. Si le Seigneur te parle, c'est conforme avec sa parole. Ce n'est pas des choses bizarroïdes. Le Seigneur m'a dit que je devais prendre le bus jaune et pas le bus bleu. Tu crois que le Seigneur il va te parler sur la couleur du bus? Alors que tu n'obéis même pas à des choses de base de la parole de Dieu. Arrêtons la farce. Et reprenons les bases de l'évangile. D'abord l'obéissance inconditionnelle à la parole. Après on parlera du Saint-Esprit. Mais il y a beaucoup de gens qui s'arrange pour être exonéré. Vous savez, sous le couvert, le Seigneur m'a dit, je suis exonéré d'obéir à la parole. Ils ne vont pas vous le dire comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Non, la parole doit rester l'autorité suprême dans ta vie. Aucune voix que tu entends ne peut outrepasser, c'est être au-dessus de la parole de Dieu. Sinon, tu te trompes et tu es séduit. Et je ne donne pas cher de ta destinée. Si tu veux réussir ta vie, l'obéissance de base est indispensable. C'est une exigence suprême de Dieu. Ce n'est pas une option que tu peux te permettre de choisir ou non. Mais tu dois faire attention. Quand tu prends une décision, méfie-toi de ne pas dire le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit et de couvrir ce que tu veux faire. Sinon ça veut dire que tu es séduit. Et il y a des gens qui sont tellement séduits eux-mêmes. Ils sont persuadés que Dieu leur parle. Qu'ils se créent un univers qu'ils appellent un univers divin qui est complètement un univers de faussaires. Et croyez-moi, quand vous commencez à désobéir aux fondations de la parole et que vous voulez commencer à chercher la face de Dieu pour que Dieu vous parle, vous êtes en très bonne position pour qu'il y ait des esprits sataniques, ce qu'on appelle les esprits familiers, qui vont commencer à vous parler. Et je peux vous dire, en plus de 32 ans de conversion à Christ, j'en ai vu passer des gens comme ça. Et on entend des choses des fois, mais on se dit, mais c'est complètement hors de sens. Donc, revenons aux bases de l'évangile. La parole, obéis d'abord à la parole. Pratique la parole. Et le Saint-Esprit te parlera, ne t'en fais pas. Mais ça
ne
sera pas tous les jours, toutes les 5 minutes. Il
te
dirigera, oui. Mais il ne dirige pas des gens qui sont rebelles à la parole.
Oh,
que quelqu'un dise Amen.
Amen.
C'est très important ce que je vous dis. La parole nous gardera toujours sur la piste. Les déviations sur la parole ne te feront qu'une chose, c'est amener à la ruine dans ta vie. Alors maintenant, j'aimerais insister à propos du rôle du serviteur de Dieu.
Hébreux
chapitre 13, verset 17. Parce que la parole de Dieu nous montre un certain nombre de choses dans lesquelles nous devons être fondés. Malheureusement, nos démocraties nous font des génocides dans nos têtes. Parce que le royaume de Dieu n'est pas démocratique, il est théocratique. Ce n'est pas moi qui ai déterminé les règles du royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu régit son royaume d'une façon différente. Dans le royaume de Dieu, le royaume de Dieu n'est pas une république où l'on vote les gens. Le royaume de Dieu a un ordre divin pour que ça tourne. Mais je dois dire que je vois beaucoup de désordre. Et je vois beaucoup de désordre parce qu'il y a des violations. Des fondations même du royaume de Dieu sous le couvert du « Le Seigneur m'a
dit ».
La parole de Dieu est claire. Obéissez à vos conducteurs. Le jour où tu reçois Jésus comme sauveur personnel, tu changes de royaume et tu as une autorité spirituelle. Soyons bien clairs. La parole de Dieu dit « Obéissez à vos conducteurs ». Rappelez-vous ce que c'est que l'obéissance. L'obéissance, c'est de recevoir des instructions et d'y obéir, non pas comme toi tu veux le faire, mais comme on te dit de le faire. Vous savez, si Dieu vous a placé dans l'église, c'est quelle raison ? Et je vais vous donner trois raisons majeures. Quand Dieu vous place dans une église locale, vous avez une autorité spirituelle. L'autorité spirituelle numéro un est là pour vous donner de l'instruction dans le royaume. Ça, c'est numéro un. Instruction. Enseignement de la parole. Rencontre un à un pour encourager, pour donner les choses. Pour former dans la parole. Pour savoir comment fonctionner dans le royaume de Dieu. La deuxième chose qui est très importante, c'est la protection. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas cela. Qui ne comprennent pas que l'autorité pastorale est là pour protéger les brebis. Il y a des prédateurs. Il y a beaucoup de choses dans ce monde. Dieu a prévu son royaume de la façon suivante. Jésus est la tête du corps. Et il a placé 5 ministres pour gérer le royaume. Les apôtres, qu'il faut le dire, sont rares aujourd'hui, des prophètes, et malheureusement, c'est tellement de responsabilités que nous avons tellement de faux prophètes et tellement de rares vrais prophètes. Et nous voyons des gens qui ont vraiment des appels de prophètes et qui loupent. Qui dévie, qui raconte n'importe quoi au bout d'un moment. Et ça, j'en ai vu beaucoup, malheureusement. Les vrais prophètes de Dieu sont rares et on aimerait bien en avoir des bons. Parce que c'est un ministère qui nous manque dans le corps de Christ. Mais alors, comme aujourd'hui, on joue à la distribution des titres, tout le monde s'appelle, mais alors maintenant, évidemment, l'apôtre, il doit être mené au-dessus, il doit y avoir au-dessus le trichop, le quadrichop, le général de l'armée de l'éternel. Hein, vous connaissez tous les grands titres. Pourquoi ? Parce que toujours les gens veulent être au-dessus des autres. C'est bien dommage. Ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. C'est de la stupidité charnelle. Et qui amène du désordre dans l'église de Dieu. Il y a le pasteur. Le pasteur, Dieu lui a donné une autorité spirituelle sur le peuple de Dieu local.
Pour
instruire le peuple. Pour le protéger. Mais aussi pour le corriger. On va en parler juste après. Mais ça, c'est important à comprendre. C'est pas l'homme. C'est Dieu qui a choisi ça. Il y a l'évangéliste, bien sûr. Et il y a l'enseignant. Mais celui qui s'occupe du troupeau local, c'est le pasteur. Et le pasteur doit veiller. Le pasteur, c'est un berger. Il doit choisir le meilleur pour ses brebis. Mais souvent, les brebis disent « Non, tu ne choisis pas le meilleur. » Et pourtant, Dieu a prévu ça. Dieu a prévu qu'il y ait une protection. Si on vous dit « Attention là, ne fais pas. » Je ne suis pas d'accord. Ça a l'air bien. On te dit « Non, on ne va pas manger là, tu vas te faire empoisonner. » Je ne suis pas d'accord. Non, t'as pas bien traduit là. Faut prier pour lui, il arrive pas à faire. Là. Tu les entends jamais sur les, tu sais, sur les vélos là ici là, les pauvres brebis qui sont comme égorgés. Vous voyez, ça ce n'est pas une attitude, frères et sœurs.
Io significato loro i qui riebene.
Si on vous dit attention danger,
bakubwiyengo genda bukebuke uragaba.
Le pasteur vient de me reprendre là.
Ah, pasteur arankari.
Pourquoi il me dit ça?
Ah,
c'est parce qu'il veut me garder dans sa bergerie. Si je voulais vous garder dans la bergerie, j'achèterais des chaînes et je vous enchaînerais ici avec des cadenas et puis j'aurais des clés.
Non.
Ce que je veux, c'est que vous deveniez des chrétiens responsables.
Et
si vous sentez que quelque chose est mauvais, ou vous vous posez des questions et qu'on vous dit non, c'est pas bon, pasteur, je comprends pas, mais j'obéis.
Vous savez,
il y a des choses qu'on sait en tant que serviteur de Dieu que vous ne savez pas. C'est normal. Il y a des choses que je sais que vous ne connaissez pas. Parce que je suis dans le ministère. Parce que le Seigneur me montre certaines choses. Et c'est normal. Si on vous dit certaines choses, c'est qu'il y a des raisons. C'est pas pour vous embêter, c'est pas pour vous déranger, c'est pas pour vous contrôler. C'est parce qu'on se soucie de certaines choses. La troisième chose, c'est la correction. La correction, ça fait mal à la chair. Le pasteur m'a dit de m'asseoir. Mais j'aime pas être assis. Je veux pas être assis. Si on t'a donné une responsabilité, et qu'on t'a dit maintenant, basse, ça suffit. Apparemment, ton caractère ne tient pas. Assieds-toi un peu, corrige-toi. C'est pas pour te faire du mal. Mais la brebis, souvent, elle fait « Je cherche une autre bergerie. » Ah, il a fait des progrès en traduction, vous allez voir. C'est parce qu'il regarde souvent face de bouc. Mais c'est terrible, frères et sœurs. Vous avez quelqu'un que vous voulez mettre en discipline parce qu'il a un problème de caractère. La première chose qu'il fait, il dit très bien. Ok. Et après, tu ne le vois plus. Et ce qu'il faisait dans ton église, alors que tu l'as mis sous discipline parce qu'il a fait des gaffes, tu le retrouves à l'église 300 mètres plus loin, 3 semaines plus tard. À faire exactement, avoir la même responsabilité. Ça s'appelle du désordre. Et ça ne nous aide pas, frères et sœurs. La personne qui a ce problème de caractère, elle ne sera jamais transformée. La correction fait mal à la chair. Tu ne te rappelles pas quand papa Un jour est rentré que maman a dit, tu sais ce qu'il a fait ton garçon? Et que papa était prêt à t'en envoyer une cinquième? Ça fait mal à ta chair. Mais ça a fait du bien à ton caractère. Parce qu'après, tu as hésité à recommencer. Et on a besoin de se faire corriger de temps en temps. Et un des rôles du pasteur, c'est de corriger. Vous savez, c'est pas agréable de remettre les gens en place en leur disant non, tu dois pas faire ça comme ça, ce n'est pas bien. Voilà les conséquences. La plupart des gens ne veulent pas entendre ça. Moi, je fais ce que je veux comme je veux. Le Seigneur te bénisse. Mais je vais te dire une chose. Si tu veux gâcher ta destinée, c'est la meilleure attitude à avoir. Jamais tu ne pourras prospérer et réussir ta destinée si tu as un tel caractère. Parce que tu désobéis. Et tu es rebelle à l'autorité. Et sache une chose. Si un jour tu es dans une position d'autorité, tu regretteras sérieusement ton attitude. Et tu verras que tu auras les mêmes problèmes avec les gens. C'est ça qui est terrible. Par contre, quand tu travailles ton caractère, oui, ta chair peut crier en disant ça fait mal, mais j'accepte la discipline et la correction. Je peux vous dire une chose, ça fait mal à la chair, mais ton caractère va vraiment, vraiment être changé. Et des fois, tu diras merci. Donc la parole de Dieu nous parle ici, remettons Hébreux s'il vous plaît. La parole de Dieu nous parle ici d'obéir aux conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, du respect, pas du... Oh pasteur, bonjour pasteur. Et derrière, tu sais le pasteur... Parce que ça s'appelle l'hypocrisie avec un grand H. Non, apprends. Demande à Dieu une révélation sur ce sujet. Fais attention. Tu sais, moi ça me gêne pas. Tu peux nous critiquer autant que tu veux. C'est à toi que ça fera du mal. Parce que si tu n'as pas la révélation sur l'autorité spirituelle, tu ne pourras jamais prospérer selon Dieu. Et c'est à toi que ça fera du mal. Il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Mais oui, frères et sœurs, nous avons des comptes à rendre au Seigneur vis-à-vis de vous. Quelqu'un qui se perd, j'en ai une responsabilité. Si quelqu'un ne rentre pas dans les choses que le Seigneur lui a demandées, alors que le Seigneur a dit, lui, il est prêt, j'en ai une responsabilité. Si je t'ai pas corrigé alors que j'aurais dû le faire, j'ai une responsabilité. Si je ne t'ai pas instruit correctement, j'ai une responsabilité. Si je ne t'ai pas protégé, j'ai une responsabilité. Parce que nous devons rendre des comptes au Seigneur. Et regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie, non en gémissant, ce qui ne serait pour vous d'aucun avantage. Donc il y a tout intérêt, frères et sœurs, à ce que nous comprenions le royaume de Dieu. Quand tu comprends ces choses, dans l'obéissance, je vais vous dire quelque chose. Quelque chose qui est important. Vous savez, quand nous prêchons avec l'autorité de Christ. Moi, je ne me suis pas placé ici en tant que pasteur de l'église El Shaddai. Ça n'a jamais été mon choix. D'ailleurs, pendant des années, je disais, et j'enseignais d'ailleurs, tout au début que je suis arrivé ici, que je n'étais pas pasteur et que j'étais très content de ne pas être pasteur. Et je vous rappelle que dans mon témoignage, la première fois où Dieu m'a dit, Je te demande d'ouvrir une église, j'ai dit au Seigneur non, je veux pas Seigneur. Et la puissance de Dieu est tombée sur moi quelques mois plus tard et là le Seigneur m'a parlé avec une voix très autoritaire en disant je t'ai dit d'ouvrir une église.
Icyo gihe nari nabihakanye mugaba mezi makenya heze numva Imana iravuganye nanje inkarira n'ijwi y'ubutegetsi.
Je me souviens très bien, c'était à Mutangano. Ishengero nari kuri 1998.
Nari kuri Mutangano
1998, oui. J'étais sur mon canapé en train de boire mon café sous le soleil brûlant du Burundi.
Nicaye ku ntebe ndiko ndanwa ikawa aha mu kuri
izuba gene wa. La puissance de Dieu est tombée sur moi.
Ubushobozi bw'Imana numva buramanukiye.
Le Seigneur m'a dit je t'ai dit d'ouvrir une église.
Et
je vous garantis. Là, j'ai dit, Seigneur, j'obéis. Parce que là, il y avait vraiment l'autorité divine qui était sur moi. Nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. Je ne me suis aucunement placé en tant que pasteur. C'est un mandat divin. Vous dites que vous ne recevez plus rien. Je vais te dire pourquoi tu ne reçois plus rien. Parce que tu critiques. Et je sais de quoi je veux parler, j'y étais aussi moi. Quand tu viens à l'église ici, avec une attitude critique, tu peux faire toutes les églises du monde entier. Quand tu commences à venir avec un esprit critique, tu commences à te couper de l'onction. Et c'est pour ça que tu ne reçois plus rien. C'est pour ça que quand tu écoutes des enseignements, t'es là et dans ta tête tout bloque. Pourquoi? Parce que tu te coupes de l'onction. Vous savez, Dieu nous donne des messages pour parler au peuple de Dieu. Et moi je vais vous dire une chose, je ne suis pas là pour réunir des foules. Je suis là pour exercer mon ministère parce que Dieu m'a demandé d'exercer le ministère. Je suis là parce que Dieu m'a placé ici dans cette nation. Des opportunités d'aller dans tous les pays du monde, j'en ai autant que j'en veux. Mais je
ne
suis pas un opportuniste, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'obéir au Seigneur.
Mais
je vous dis une chose. Où que vous soyez sur cette planète, à partir du moment où vous venez dans une église qui est votre église et que vous venez avec une mentalité critique, vous vous coupez de l'onction pastorale, vous vous coupez de ce que Dieu veut vous dire, et au bout d'un moment vous commencez à perdre de la ferveur spirituelle et vous continuez à critiquer. Et qu'est-ce qui va se produire après? Vous allez commencer à sauter d'une église à une autre, à jouer, à aller à droite ou à gauche, cherchant peut-être s'il y a un visiteur dans telle église ou un visiteur dans telle autre église. Et je ne dis pas que c'est mal d'aller voir de temps en temps des visiteurs, je n'ai aucun souci avec ça. Par contre, il y a des chrétiens qui ne vivent que de ça, et de plus en plus à Bujumbura. Je vais vous dire une chose, c'est bon pour personne. Nous avons besoin de chrétiens engagés, loyaux, qui s'engagent dans la vision. Je vais vous dire une chose, certains d'entre vous, vous ne vous engagez pas dans des départements. J'ai des gens qui me disent par exemple, oui pasteur, je fais des groupes d'évangélisation, blablabla, avec un tel et tel. Mais Dieu vous a donné un cadre, il vous a donné une église. Oui pasteur, je suis invité à prêcher à droite ou à gauche. Et pourquoi tu ne commences pas un groupe de maison? Un groupe de maison, tu vas prêcher toutes les semaines ici. Pourquoi tu ne fais pas ça? Je vais t'expliquer pourquoi tu ne fais pas ça. Parce que tu n'as pas compris ce qu'était l'autorité pastorale. Et je vous assure, j'ai vu exemple sur exemple et j'en vois de plus en plus et ça me fait mal. Des gens qui font des choses en dehors de l'autorité pastorale. Et quelques temps après, qui dévient. Et certains même ont sérieusement dévié. Parce qu'ils veulent faire leur petit truc indépendamment. Et vous savez, c'est une mentalité qu'il faut changer ici. Parce que c'est une mentalité qu'on retrouve dans le business, et c'est ce qui tue le business au Burundi. Où chacun veut faire son petit truc et être le capitaine, le patron.
bikica business kuko umwe wese agomba kuja hejuru abari wabirongora byose.
Et dans les églises c'est ce qu'on retrouve.
No mu mashengero gasanga niko bigomba kumera.
Vous avez plein de choses qui s'appellent les églises qui ont été ouvertes ces derniers temps qui ne sont pas de Dieu.
Hari ibintu byinshi byuguruwe byitwa amashengero bitava ku Mana.
C'est uniquement un transfert d'un certain nombre de gens qui font des, qui sortent des groupes dans les églises.
Ugasanga ni imigwi yari mu mashengero yimutse kava muri aya
mashengero. C'est uniquement un transfert de chrétiens.
Ugasanga n'abakristo bimutse bava hamwe baja hande gusa.
Regardez l'histoire de l'église ces deux à trois dernières années ici.
Muze murabe kaise kiri shengero ryo mu Burundi
imyaka 2013. La plupart des églises ou entre guillemets églises qui se sont ouvertes.
Muzosanga amashengero menshi yatanguye.
Ce ne sont pas des gens qui ont évangélisé qui ont démarré des églises.
Sabantu bavuze ubutumwa ngo batanguze
amashengero yabo. Églises, qui ont ouvert des associations et qui se sont intronisés pasteurs. Vous savez, je vous dis ces choses pour vous ouvrir les yeux. Et malheureusement, il y a un désordre qui se perpétue. Pourquoi ? Parce que c'est la démocratie qui rentre dans la théocratie. Le royaume de Dieu n'est pas une république. Nos nations sont des républiques. Et on choisit les gens qui dirigent. Mais dans le royaume de Dieu, aucun homme ne peut choisir des hommes. C'est Dieu qui choisit. Et Dieu parle au travers de ses serviteurs. Je suis étonné de voir combien de gens viennent. Ils sont là. Et le Saint-Esprit leur dit des choses. Et moi je leur dis, le Saint-Esprit ne m'a rien dit sur ton sujet. Des gens qui veulent initier des soi-disant ministères. Et ils partent à l'aventure. Pourquoi ? Parce que normalement, si c'est des gens qui sont engagés dans une église, sous une autorité pastorale, ils sont formés. Et il se développe. Et à partir de ce moment-là, il y a un engendrement. Parce que dans le ministère, quand on n'a pas de père, on est orphelin.
Et quand
on est orphelin, c'est très difficile de réussir dans le ministère. Vous ferez face à des défis où vous allez 9 fois sur 10 tomber. Donc l'obéissance fonctionne comme élément de base du royaume de Dieu. Et il est très important de le comprendre. Parce que tellement de gens dérogent à cette règle spirituelle. Et je vous assure, nous assistons à beaucoup de désordres. Et je voyage dans différents pays et je vois le même désordre. Dans un certain nombre de pays. Pourquoi ? Parce que les gens manquent d'une chose. La révélation. La révélation de la soumission, de l'obéissance à Dieu. Nous allons prier ensemble. Père, je prie pour ton peuple ce matin. Et je prie, Seigneur, pour qu'il y ait vraiment une révélation de ton royaume. Pour que nous puissions comprendre, Seigneur. Que tu as des exigences dans l'obéissance. Et tu veux que nous obéissions, Seigneur. Nous obéissions à ta parole. Seigneur, je prie pour qu'ici personne ne prenne une excuse. Le Seigneur m'a dit pour outrepasser ta parole. Parce que Père, tu nous as donné ta parole écrite comme autorité suprême de direction dans nos vies. Et Seigneur, je sais que tu nous parles
et
nous ne voulons pas faire n'importe quoi. Je te remercie, Seigneur, de révéler les choses, de
te
faire comprendre, Seigneur, ce qu'est l'obéissance inconditionnelle dans tes exigences, Seigneur. Merci, mon Père, parce que tu veux que nous puissions réussir nos vies et tu nous as placés en tant que serviteurs de Dieu pour, Seigneur, aider ton peuple. C'est pourquoi je prie pour que ce peuple soit un peuple intelligent, un peuple rempli de sagesse, un peuple qui sait fonctionner, Seigneur, dans l'obéissance et dans ton autorité, pour qu'il puisse réussir. Dans le nom de Jésus, nous prions.
Amen.
Que Dieu vous bénisse et faites attention à ce message. Que 2014 soit l'année de l'obéissance. Et je vous garantis, il y a vraiment la prospérité divine. divine dans l'obéissance. Soyez bénis, passez un super dimanche.
Nous espérons que cette parole vous a exhorté, édifié et réconforté, et qu'en la pratiquant, la gloire de Dieu se manifeste au travers de vous sur terre. Nous vous invitons aussi à consulter le site www.enseignemoi.com. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez nous contacter pour d'autres enseignements, appelez-nous au 00 257 22 24 13 39 ou par email mesburundi@yahoo.fr.